France Inter. Le 7-9.
Léa Salamé, votre invitée ce matin, est écrivain, journaliste, grièvement blessé le 7 janvier 2015 lors de l'attentat contre Charlie Hebdo.
Bonjour Philippe Lançon.
Bonjour.
On est très heureux de vous recevoir ce matin sur France Inter pour la sortie du livre Le Lambeau, magistral, renversant, d'une beauté littéraire inouïe. Même si tous les adjectifs que je pourrais sortir ce matin sont forcément ridicules devant la force de votre témoignage. Vous dites écrire, c'était protester, mais c'était aussi déjà accepter. En quoi ce livre est aussi important pour votre reconstruction que les 17 opérations de la mâchoire que vous avez subies?
En fait, je ne pense pas que c'est une reconstruction. La reconstruction, c'est un terme chirurgical. Mais le livre, c'est une construction. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui est mort en moi et en certains d'entre nous le 7 janvier dans cette salle de conférence à Charlie. Et ensuite, celui qui a continué à vivre...
Qui est un autre,
mais plutôt bien finalement, enfin progressivement, dans des conditions évidemment très très difficiles au départ, et puis progressivement ça va mieux. Celui-là, il a comme lien avec celui qui existait avant, d'être quelqu'un pour qui écrire c'est la vie. Et donc c'est par l'écriture qu'il apprend à vivre.
Vous commencez le livre en racontant les dernières heures de votre vie d'avant, en essayant d'y trouver des signes prémonitoires de ce qui allait se passer. Premier signe, la veille du 7 janvier, vous allez au théâtre voir La Nuit des Rois de Shakespeare. Et la dernière petite phrase que vous notez dans votre petit carnet, c'est « Rien de ce qui est n'est ».
Oui, je l'ai écrit dans le noir. Vous savez, quand on est au théâtre, il y a des gens qui ont des stylos lumineux, mais moi, je n'en ai pas. Et donc, j'avais effectivement noté cette phrase qu'il m'a fallu redécrypter un peu comme dans une grotte, puisque j'avais gardé effectivement ce carnet que je n'ai pas retrouvé tout de suite. Et voilà, il se trouve que je suis allé voir cette pièce la veille. Ça, c'était le hasard de la vie. Et effectivement, après... j'ai eu tendance dans cette atmosphère d'une densité particulière qu'est effectivement la survie après l'attentat, la chambre d'hôpital, donc très très dense, une atmosphère extrêmement dense, à chercher, non pas à interpréter, mais à réexplorer, vraiment comme dans une grotte, tous les signes qui étaient en quelque sorte sur les murs de la vie qui avait précédé, et en particulier évidemment des derniers moments. Et là, effectivement, le symbole était... c'était justement pas un symbole, puisque c'était la vie.
Deuxième signe encore plus prémonitoire, c'est Michel Houellebecq, l'écrivain qui plane littéralement sur cette semaine-là. D'abord parce que deux jours avant, vous sortez la critique de son livre, Soumission, que la veille au soir, vous l'écoutez sur France 2. Le matin même, avant d'aller à Charlie Hebdo, vous écoutez Houellebecq qui était ici à votre place, à France Inter. Vous arrivez à la salle de rédaction et Tinius Sharp et Bernard Maris s'engueulent sur le bouquin de Houellebecq. Michel Houellebecq qui devient un personnage du livre et de la tragédie.
Oui, parce que c'est un grand écrivain, Michel Houellebecq, un romancier, et il avait fait un acte d'imagination en écrivant Soumission. Comme souvent chez les romanciers de cette trempe, mettait les pieds dans le plat. D'une façon... on a pu lui reprocher, mais c'était pas la question. C'est un romancier, c'était pas un essayiste. Et donc, effectivement, là, moi, je me suis retrouvé au milieu d'une discussion qui était politique sur le livre de Houellebecq. Moi, je le défendais en tant que lecteur d'un roman. Je me souviens très bien. Et puis après, on a basculé dans quelque chose d'horrible, mais qui était tellement horrible qu'il relevait presque de la fiction. Et donc, effectivement, Houellebecq, avec tout le reste, est devenu un personnage à part entière de cette fiction qui doublait la réalité, finalement, de basse intensité que nous vivions jusqu'ici, où on pouvait avoir des discussions politiques normales à propos d'un roman.
Il l'a lu, Le Lambeau, Houellebecq, vous lui avez envoyé ?
Je ne lui ai pas envoyé, mais je suis sûr qu'il va le lire d'une manière ou d'une autre.
Vous consacrez 60 pages à l'attentat. 60 pages où vous décrivez avec une obsession du détail folle, une danse macabre, récit à la fois insoutenable et pourtant poétique. Quand vous écrivez « Les morts se tenaient presque par la main, ils étaient faits de silence et de sang, je ne sentais pas le sang dans lequel je baignais pourtant, mais j'entendais le silence, je n'entendais même que ça. » Ou encore « Combien de temps ai-je regardé la cervelle de Bernard Maris, assez longtemps pour qu'elle devienne une partie de moi-même » Est-ce que ça a été les pages les plus difficiles à écrire?
Sans doute. En tout cas, ça a été, avec le premier chapitre, les premières que j'ai écrites. Je ne pouvais pas écrire la suite du livre sans commencer par, comment dire ça, cette scène inaugurale. Voilà. Et qui posait effectivement des problèmes. Je ne pouvais pas l'écrire sans la revivre, mais je ne pouvais pas la revivre sans l'écrire. Ça a l'air d'être un pléonasme ou une tautologie, mais c'était comme ça que ça se passait. Il fallait trouver... Il y a des choses qui sont tellement dures à vivre, je pense que c'en est une, il y en a, chacun d'entre nous en a dans sa vie, celle-là est particulièrement dure, sans pouvoir trouver les formes, soit pour le dire si on parle, soit pour l'écrire. Ça ne va pas sans la forme qui va accompagner ce qu'on dit.
Et la forme, c'est d'être obsédé par les détails. Vous voulez absolument tout consigner, ne rien oublier, ne pas tricher, ne pas mentir. On a l'impression que pour rendre hommage à vos amis morts, vous vouliez être au plus près de la vérité.
Bah, de toute façon, ils sont avec moi. Plus, en vérité, plus qu'ils ne l'ont jamais été de leur vivant. Certains étaient des gens très proches, comme Volinsky, enfin, assez proches, en tout cas, pour qui j'avais énormément de tendresse et d'admiration. Et effectivement, dans la mort et dans cette scène qui n'a duré que très peu de temps, quelques minutes, ils sont devenus des gens qui, de toute façon, m'accompagneront pour toujours. Et donc, le minimum que je pouvais faire, c'était d'aller le plus loin possible dans ce que moi je sais faire, c'est-à-dire écrire, pour leur permettre de m'accompagner et moi de les accompagner aussi loin que possible.
Je n'avais pas de chagrin, j'étais le chagrin, écrivez-vous. Le chagrin, mais pas la colère, Philippe Lançon. Pas de haine, ni de rage, à aucun moment contre les tueurs. Comment c'est possible?
En fait, moi, c'est le contraire qui me paraîtrait impossible. Je n'ai jamais... était dans un état où je me suis dit « contrôle-toi, contrôle ta colère, contrôle ta rage ». Je pense que instinctivement, d'abord, j'avais autre chose à faire quand je me suis retrouvé à l'hôpital. Je pense que la colère ou la rage, à supposer que j'en ai eu, m'aurait littéralement dissous et m'aurait empêché d'utiliser l'énergie dont j'avais besoin pour, comme toute victime d'attentat qui a été sérieusement blessée, pour le coup là, me reconstruire physiquement. C'est quand même un travail en plein temps hein,
de se reconstruire,
d'encaisser les blocs les uns derrière les autres, les anesthésies générales, etc.
Et d'ailleurs, vous rendez un très bel hommage à Chloé, votre fée imparfaite, qui est votre chirurgienne, vous l'appelez comme ça.
Oui, la fée imparfaite, parce que c'est une fée dans la mesure où elle a présidé à ma reconstruction. Et imparfaite parce que c'est une femme, donc ce que j'essaie aussi de
et
raconter...
Quoi, les femmes sont imparfaites?
Non, une femme, un être humain, on va dire. Et donc, le chirurgien est un personnage tout puissant à qui le patient veut accorder une toute puissance. Et en même temps, évidemment, comme ce n'est pas un personnage tout puissant, le patient lui en veut de ne pas avoir les solutions immédiates qui voudrait avoir. Et donc j'ai raconté, je crois, ce pas de deux qu'on avait ensemble avec toute l'équipe qui était essentielle, ouais. Qui m'a rappelé que le patient, qui m'a appris que le patient est quelqu'un qui doit y mettre du sien. Absolument. Vous voyez, c'est pas un enfant ou un oiseau qui attend la béquée. Et ça, Chloé là-dessus, qui connaît très bien le grec et les tragiques grecs et toutes ces choses-là, m'a appris à être très socratique. Vous voyez, elle m'a fait accoucher aussi de toutes les possibilités de moi-même pour me reconstruire.
Aujourd'hui, plus de 3 ans après, 17 opérations plus tard, comment vous allez? Est-ce que vous vous êtes accommodé de votre nouveau visage?
Oui, parce que à vrai dire, il n'est pas si différent aujourd'hui, 3 ans après, de ce qu'il était avant. Mais vous voyez, quand je disais que je ne suis plus le même, et que si je me regarde dans une glace ou sur une photo, celui d'avant surtout, c'est plus moi, c'est largement psychologique. C'est-à-dire que moi, je sais que j'ai absolument changé. Et donc, effectivement, moi, j'ai une vision technique de mon visage modifié parce que je dois le travailler. Mais pour le reste, c'est de l'intérieur que je ne me sens plus celui que j'étais.
Et en un mot, comment celui que vous êtes devenu regarde celui que vous étiez, le chroniqueur littéraire, parfois à la dent dure? Est-ce que vous avez de la tendresse pour lui ou est-ce que des choses que vous aimez moins ou que vous aimez pas?
Bah, écoutez, Oui, j'ai de la tendresse, et puis pour le reste, pardonnez-leur, et ils ne savent pas ce qu'ils font.
Philippe Lançon, j'avais encore beaucoup de questions à vous poser. C'est un livre magnifique, je le répète. L'hommage que vous faites à vos parents, à votre frère, aux femmes que vous aimez. Vous ne vous épargnez rien dans ce livre, vous ne nous épargnez rien. Ça s'appelle Le Lambeau, c'est chez Gallimard. Merci infiniment et belle journée à vous.
À vous aussi, Léa.
Merci Léa Salamé et merci infiniment à votre invité, effectivement Philippe Lançon, d'être venu ce matin dans le studio de France Inter, 7h58.